OK, on va aller rejoindre François Marquis, le chef du service des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour François.
Bonjour, comment ça va?
Très bien, Luc est avec nous. Bonjour Luc.
Oui, bonjour.
Vas-y donc avec ta question, mon Luc.
Bien, pourquoi y a-t-il moins d'hospitalisations dans la deuxième vague que dans la première? Est-ce que c'est parce qu'on sait mieux comment se protéger contre, je ne sais pas, mais quelle est la raison pourquoi soudainement il y a beaucoup moins d'hospitalisations qu'au printemps?
Ben en fait, il y a pas juste une raison, c'est vraiment multiples raisons ensemble, puis pour une fois, ça joue en notre faveur. La première, qui est tristement la plus simple, c'est que quand la première vague est arrivée, notamment dans les CHSLD ou dans les milieux de vie qui comportaient beaucoup de gens à risque, ben ça a passé comme une traînée de poudre. Il y a énormément de gens malades qui avaient pas les capacités de survivre à la COVID qui en sont décédés. Donc, là, la COVID avait comme est allée ailleurs. L'endroit où elle a décidé d'aller, c'est chez des gens plus jeunes, donc à moins à risque de se faire hospitaliser, parce que pour amener un gars de 20 ans ou une femme de 30 ans à l'hôpital ou aux soins intensifs, bon, on s'entend qu'il faut qu'elle soit beaucoup plus malade parce que ses poumons, encore tout neufs, sont capables d'en prendre. Ça, c'est l'explication simple et facile qu'on entend partout. Maintenant, il y a d'autres éléments. La première, c'est qu'on connaît beaucoup mieux la maladie, ce qui veut dire que les médecins de première ligne sont plus à l'aise aussi à dire « toi, on a besoin de te garder, toi, on a moins besoin de te garder ». On a aussi développé dans le système de santé, avant les gens qui étaient, dès qu'ils commençaient à être un peu plus malades, on les rentrait directement à l'hôpital. C'est qu'il y a cette familiarité-là avec la maladie, même si le traitement est toujours du traitement du support. Et ensuite, quand les gens se posent la question, est-ce que tous ces sacrifices-là que je fais sont utiles? La réponse est oui. C'est que les gens qui sont à risque, qui n'ont pas été ramassés par la première vague, mais qui ont dit « j'ai été chanceux lors de la première vague », il y en a beaucoup là-dedans qui ont compris. Et ceux qui s'occupent ou qui sont en contact avec ces gens-là ont aussi compris. Hein, les préposés aux bénéficiaires qui font du travail à la maison, les infirmières qui font des soins à domicile, les aidants naturels, tous ces gens-là ont compris le sérieux de la chose et protègent d'un côté leur clientèle et de l'autre leur famille. Et tout ça mis ensemble, ça donne un peu ça. Ouais, maintenant, il ne faut pas oublier une chose.
Oui.
C'est qu'on est à trois niaiseries à peu près que ça arrête de fonctionner. Là. Je m'explique. Encore la semaine passée, moi, j'ai un groupe de patients à risque qui a décidé de faire un petit regroupement clandestin. Ben, ça a donné, en trois jours, cinq hospitalisations, dont trois aux soins intensifs.
Hein?
Oui.
La même gang, le même party.
Ah, le même party. Puis c'était pas un party de 500, là. Mais c'était un regroupement de personnes qui étaient très vulnérables, qui ont décidé de dire, ah, ben, nous autres, si on se sent entre nous autres, on est correct. Ben non, le virus, lui, il en a profité. Puis au lieu d'avoir une hospitalisation, ben ça a été cinq plus là-dessus trois aux soins intensifs. Et ça, pour Montréal, bah, c'est pas la fin du monde. On en a beaucoup de lits d'hospitalisation. Mais si on fait trois patients de soins intensifs plus cinq hospitalisations dans un hôpital plus régional qui n'a pas les mêmes ressources, ça peut virer un hôpital à l'envers. Donc, des petits gestes, on est toujours à une éclosion près d'éviter une catastrophe ou d'en créer une. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Mais on a le droit de se dire « Hey, ce qu'on fait, ça marche. »
Bernard, si tu peux, si tu me permets, j'aurais une autre question que je me pose depuis même très longtemps et j'entends d'autres la poser aussi. Comment ça prend fin une pandémie? Parce que bon, là, ça a commencé en janvier, il y a eu une vague énorme, puis là, il y a eu une sorte de déconfinement, puis cet été, c'était calme, puis là, c'est reparti. Puis là, il y en a qui parlent de troisième vague. Alors, est-ce qu'on peut se promener de déconfinement en reconfinement, en déconfinement comme ça très longtemps? Comment ça se termine, une pandémie?
Bon, ça se termine de deux façons. Il y a la façon qui finit dans un film d'Hollywood, tout le monde est mort, puis il reste trois personnes sur Terre. Clairement, c'est pas comme ça que ça va se finir avec la COVID. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'effectivement, il y a des vagues simultanées, et c'est un peu comme un tsunami. La première vague est immense, on en parle aux nouvelles. La deuxième, il y a un ressac, et tranquillement, on finit par juste avoir des petites vaguelettes. Je vous donne un exemple pratique. Quand il y a eu le H1N1, là, ça a été très, très d'actualité. On a eu peur. Ça a été comme une pratique générale pour notre COVID. Mais on en a encore des H1N1. C'est juste que vous n'entendez pas parler. C'est juste qu'on a quelques cas par-ci, par-là. Et pourquoi ces vagues-là deviennent de plus en plus petites? C'est d'une part l'immunité de groupe, mais d'autre part, pour que le virus se transmette, il faut qu'il y ait plusieurs personnes susceptibles ensemble de l'attraper. Et donc, au fur et à mesure, quand l'immunité s'installe, ça devient de plus en plus difficile pour le virus de se passer à plus qu'une personne. Et le concept d'une pandémie, c'est une personne malade en contamine plusieurs. Oui. Et là, ça fait un raz-de-marée exponentiel. Du moment où c'est dur pour le virus de se transmettre, ben les pandémies s'éteignent d'elles-mêmes. Pourquoi le SARS, là, qui est MR machin, là, qui est, que j'ai un blanc, là, pourquoi lui n'a pas fait de pandémie? C'est qu'il n'est simplement pas aussi contagieux que la COVID-19. Et on est extrêmement content qu'il soit moins contagieux parce que son taux de mortalité était beaucoup plus élevé. Et donc, c'est comme ça. Une pandémie, à un moment donné, s'essouffle parce qu'elle n'a plus de combustible, elle n'a plus de victimes et elle n'en a plus assez pour garder son air d'aller, comme on dit.
Ah, c'est très clair. N'est-ce pas, Luc?
Oui, c'est très, très clair.
Voilà.
Est-ce que ça veut dire qu'on a une troisième vague qui s'en vient, docteur?
C'est certain qu'il va en avoir une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, mais à un moment donné, on les verra même plus. Ils vont tomber dans le bruit de fond cosmique et ça va faire... À partir de maintenant, nous, dans les hôpitaux, on va avoir à gérer des patients avec la COVID-19 pour la fin de ma carrière, mais jamais dans les nombres qu'on a vus. Il faut le voir comme ça. Ça va devenir une maladie qui va se mélanger aux autres pour lesquelles on va avoir des cas D'accord. de temps à autre, puis on va vivre avec.
Et nous souhaitons tous... Collectivement, je n'en doute point, je me fais votre porte-parole, que la fin de carrière de François Marquis ne vienne pas trop vite, docteur Marquis, chef du service des soins intensifs. Non, non, parce qu'il fabrique du scotch, notre Marquis, puis un moment donné, il pourrait être tenté de se consacrer corps et âme à sa production de scotch.
Je vous informe, docteur Marquis, que M. Drainville aime beaucoup le scotch.
Ah, il là, sait déjà.
Il est au courant.
Merci, François.
Salut. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, Luc. À demain.
À demain.
Après la pause, l'édition spéciale du Protégez-vous. On finit ça sur une note positive. L'édition spéciale du guide Jeux et jouets de Noël est de retour, mesdames et messieurs. On en parle après la pause.